Vous écoutez On lit pour vous.
Ne dormons pas comme Dakota, un dossier de Catherine Anfield, paru le 28 janvier 2024 dans la presse. Pas tous égaux face au sommeil. Dakota Johnson s'est illustrée dans le film Fifty Shades of Grey. Elle est aussi la fille de parents célèbres, les acteurs américains Don Johnson et Melanie Griffith. Et depuis quelque temps, la comédienne est aussi connue pour ses habitudes de sommeil. En décembre, en entrevue avec le WSJ Magazine publié par le Wall Street Journal, Dakota Johnson, 34 ans, y est allée d'une confidence surprenante après avoir mentionné que, dans la vie, le sommeil était sa priorité numéro un. « Je ne suis pas fonctionnelle si je dors moins de 10 heures », a-t-elle précisé. « Je peux facilement dormir 14 heures. » Oui, vous avez bien lu, 14 heures. De quoi complexer le commun des mortels et ses 7 à 8 heures de sommeil. Si on priorisait notre sommeil comme Dakota, dormirions-nous 10, 12, voire 14 heures? Le neurologue Alex Desautels dirige la clinique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. À notre demande, il s'est penché sur l'épineuse affaire du sommeil de Dakota. J'ai cherché Dakota Johnson et Sleep sur Internet et ça m'a renversé. Il y a 3 pages dans Google. Tout le monde a repris ça, fait-il remarquer. D'une part, dit-il, c'est bien parce que ça sensibilise à l'importance du sommeil. Mais 14 heures, ça me semble un peu long. Nous ne sommes pas tous égaux en matière de sommeil. Certains ont besoin de plus de sommeil, d'autres moins, et il y a un aspect génétique dans tout cela. C'est un trait qu'on dit complexe. Plusieurs gènes vont interagir pour fixer nos besoins de sommeil, explique Alex Desautels. Des gènes spécifiques ont d'ailleurs été identifiés dans les familles de courts dormeurs. Ils font en sorte que le cerveau s'éveille plus facilement et peut rester éveillé plus longtemps, indique Alex Desautels, également professeur à l'Université de Montréal. Des besoins qui varient. Chez l'adulte, les besoins de sommeil varient en général de 7 à 9 heures, et ce n'est qu'une très petite proportion de la population qui a génétiquement besoin de moins, dans les 6 heures, ou de plus de sommeil, dans les 9-10 heures. Il y a une variabilité dans les besoins de sommeil et on ne peut pas se fier uniquement à sa durée pour déterminer sa qualité, explique Tan Dangvu, neurologue à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Certaines personnes dorment un peu moins, mais ont plus de sommeil profond, illustre-t-il. L'environnement joue aussi un rôle. Un sportif au sommet de son entraînement aura besoin de plus d'heures de sommeil qu'une personne sédentaire. Mais 14 heures? C'est extrême et ce n'est probablement pas normal, dit le docteur Tan Dangvu, professeur titulaire à l'Université Concordia. C'est très rare et ce n'est pas normal, tranche le professeur Charles Morin, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil à l'Université Laval. Selon une étude pan-canadienne menée l'automne dernier et dont les résultats seront publiés cette année, seulement 3% des quelque 4000 répondants ont dit dormir plus de 9 heures par nuit. À l'opposé, près de 20% dorment moins de 6 heures, souligne Charles Morin. Bien des gens vivent donc avec une dette de sommeil en permanence, dit-il. Mais revenons à l'autre extrême, Dakota. Quelle mouche l'a donc piquée? Première hypothèse, l'exagération. Le docteur Alex Desautels souligne qu'on est mauvais juge de son propre sommeil. Autant les insomniaques ont tendance à sous-estimer la durée de leur sommeil, en moyenne d'une heure, autant les hypersomniaques ont tendance à la surestimer. Il faut peut-être chercher la réponse dans la routine de vie de Dakota. Dans la même entrevue au WSJ Magazine, l'actrice disait ne pas avoir d'heure fixe de réveil et prendre des bains à n'importe quelle heure du jour. Peut-être que ses heures de coucher sont aussi irrégulières. Si, en vue d'un examen, par exemple, une personne dort de 3 à 4 heures pendant plusieurs jours, quand cette personne laisse aller son sommeil, elle peut dormir 12 heures, 14 heures, voire plus, illustre le docteur Tan Dangwu. Dernière possibilité, l'existence d'une problématique de santé. Les études épidémiologiques montrent que trop peu de sommeil, c'est mauvais, mais trop de sommeil, c'est mauvais aussi, résume le docteur Dangwu. Pourquoi? Parce que l'hypersomnie peut être le symptôme d'une pathologie sous-jacente, comme l'apnée du sommeil, un trouble prévalent qui entraîne des arrêts de la respiration pendant le sommeil. Des maladies neurologiques, dont le syndrome de Klein-Levin, sont aussi associées à l'hypersomnie. Niveau de vigilance. Comment savoir si on dort le nombre d'heures dont on a besoin? L'un des meilleurs indicateurs, souligne Charles Morin, c'est le niveau de vigilance pendant la journée. Si vous êtes capable de faire vos activités normalement, sans avoir à combattre le sommeil ni à avaler 10 cafés pour rester alerte, vos besoins sont probablement satisfaits. Beaucoup de gens veulent se faire croire qu'ils peuvent fonctionner avec 5 heures, 6 heures de sommeil, mais dès qu'ils ont l'opportunité de faire une sieste, ils la prennent et s'endorment, souligne Charles Morin. Marilyn Labbé, 45 ans, se considère comme une petite dormeuse naturelle. Elle dort de 4 à 5 heures, entrecoupée d'une période d'éveil dont elle profite pour dessiner. « J'ai toujours vécu comme ça », dit la résidente de l'Estrie. Adolescente, j'allais dormir chez des amis et c'était très long et très plate d'attendre que les autres se lèvent. Elle ne fait pas de sieste et ne consomme aucune caféine. Pas besoin. Elle n'est ni fatiguée, ni irritable, dit-elle. C'est plus les autres que ça inquiète, souligne la mère de famille. Pascale Montcalm s'est longtemps décrite comme une couche-tard. Même si son réveil matin sonnait à 6 heures la semaine, elle n'acceptait pas de se coucher tôt, comme si j'avais peur de manquer quelque chose, raconte-t-elle. Aujourd'hui, elle réalise qu'elle ne dormait pas assez. J'étais moins concentrée, moins alerte, et ça m'arrivait de cogner des clous en conduisant, se souvient-elle. C'est la maternité qui l'a incitée à prioriser son sommeil. Elle se couche aujourd'hui à 21 heures pour dormir de 8 à 9 heures par nuit, parfois 10 heures, mais jamais 14 heures. Elle laisse ça à Dakota. Vous écoutez, ne dormons pas comme Dakota, un dossier de Catherine Handfield, paru le 28 janvier 2024, dans la presse. Insatisfait de votre sommeil? Voici quelques conseils de base. Adoptez une routine. L'heure du coucher et l'heure du lever devraient être régulières, la semaine comme la fin de semaine. On se réserve donc une plage horaire de 8 heures consacrée au dodo et on la respecte. Favorisez les activités calmes. Avant d'aller au lit, on évite de travailler, d'avoir des discussions importantes, de prendre des décisions cruciales. Mieux vaut couper les écrans une heure avant d'aller au lit. Sortir de son lit. Quand on est incapable de dormir, les spécialistes suggèrent d'aller faire une activité tranquille dans une autre pièce jusqu'à ce qu'on ressente à nouveau des signes d'endormissement. Cacher l'heure. Charles Morin conseille aux insomniaques de garder le cellulaire et le réveil matin couverts et hors de portée pendant la nuit. On ne devrait même pas y jeter un coup d'œil, dit-il. Garder des attentes réalistes. Tout le monde va avoir des problèmes de sommeil à un moment donné ou l'autre. Vous avez une mauvaise nuit de sommeil? Ne paniquez pas avec ça. Consultez. Si les recommandations de base n'améliorent pas la situation, mieux vaut consulter un professionnel qui pourra mener une évaluation. 6 choses à savoir sur la durée du sommeil. 8 heures de sommeil, c'est souvent présenté comme la norme, comme le chiffre magique vers lequel il faut tendre. Est-ce universel? En a-t-il toujours été ainsi? Tour d'horizon de certaines réalités. Variation culturelle. La durée de sommeil varie d'un pays à l'autre. Selon une étude publiée en 2018 dans The Economist, les Japonais dorment en moyenne à peine plus de 6h15 par nuit, soit 1h30 de moins que les champions, les Néo-Zélandais. Les Canadiens se situent dans le haut du peloton avec près de 7h25 de sommeil en moyenne. Les courtes nuits de sommeil sont associées aux pays plus pauvres, Philippines, Malaisie, et aux pays valorisant la productivité, Japon, Corée du Sud, ou encore à ceux où l'on retrouve la prière du matin, Arabie Saoudite, Égypte. On dort moins qu'avant ou pas? Dans nos sociétés modernes, dormons-nous moins qu'avant? Certaines études avancent que oui, d'une heure à 1h30 de moins en moyenne. D'autres suggèrent que non. Il y a une dizaine d'années, le psychiatre Jérôme Siegel, de l'Université de la Californie à Los Angeles, a étudié les habitudes de sommeil dans 3 tribus de Tanzanie, de Namibie et de Bolivie. Il a constaté que ces chasseurs-cueilleurs dormaient un peu moins de 6h30 par nuit et qu'ils se couchaient environ 3 heures après le coucher du soleil. Bref, pas mal comme nous. 8 heures consolidées, un modèle anormal. Selon la théorie très médiatisée de Roger Ekirch, professeur d'histoire à Virginia Tech, les gens de l'époque pré-industrielle divisaient leur nuit de sommeil en 2 blocs et ils profitaient de ce moment d'éveil en pleine nuit pour prier, méditer, noter leurs rêves, faire l'amour ou même visiter des voisins. Le sommeil consolidé de 8 heures ne serait donc pas naturel, a suggéré Ekirch. Des chercheurs ont par la suite argué que, jadis, il existait simplement une plus grande diversité de pratiques de sommeil. Attention aux gadgets connectés. Les gens se fient de plus en plus aux montres et aux autres applications pour mesurer la durée de leur sommeil. Si on se réserve trop peu de temps pour le sommeil, ça permet d'en prendre conscience, mais attention. Non seulement ces gadgets ne sont pas très précis, mais ils peuvent provoquer chez certains de l'autosomnie, indique Tan Dangvu, neurologue à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Les gens qui ont un grand attachement envers ces valeurs peuvent développer une forme d'anxiété de performance par rapport à leur sommeil, la voie royale vers l'insomnie. Les personnes âgées ont les mêmes besoins. S'il est vrai que les enfants et les adolescents ont besoin de dormir plus, il est faux de dire que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil que les adultes plus jeunes, indique le professeur Charles Morin, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil à l'Université Laval. On a besoin de la même quantité de sommeil en vieillissant, mais on a plus de difficultés à aller chercher du sommeil de qualité, explique-t-il. Certaines personnes âgées acceptent cette réalité, d'autres développent de l'anxiété par rapport à cela et, par ricochet, de l'insomnie, et d'autres encore compensent en faisant une sieste l'après-midi. Dormir assez, c'est important. Combler ses besoins de sommeil, c'est important. Pendant ces 8 à 9 heures, nos ancêtres étaient complètement vulnérables à tout, mais malgré cela, c'est un trait qui a été conservé dans l'évolution. C'est sûr que c'est important, résume le neurologue Alex Desautels. La privation de sommeil est associée à une augmentation du risque de diabète, d'obésité, de dépression, de certains types de cancers et de maladies cardiovasculaires et diminue l'efficacité du système immunitaire. Il n'existe pas de preuve que les gens ayant génétiquement besoin d'un peu moins de sommeil courent ces mêmes risques. C'était « Ne dormons pas comme Dakota », un dossier de Catherine Handfield, paru le 28 janvier 2024, dans la presse.
Des résidences qui cassent le moule. Un texte d'Anne-Marie Tremblay paru le 9 février 2024 dans le magazine Virage. Depuis des années, l'offre en habitation pour les personnes aînées tend à s'uniformiser autour de résidences privées pour aînés, RPA, souvent de grande taille et inaccessibles à bien des bourses. Or, certains modèles alternatifs ont fait leur apparition dans le paysage québécois. Visite guidée d'exemples inspirants. En plein cœur de l'Estrie, dans le village de Racine, une poignée d'irréductibles ont fondé la Brunante, soit la première coopérative de solidarité en habitation destinée aux personnes de 75 ans et plus. Leur objectif? Vieillir dans leur communauté. C'était particulièrement important pour nous de créer une résidence ancrée dans notre milieu, car on ne transplante pas un vieil arbre, rappelle Gaston Michaud, président et fondateur de la coopérative. La formule coopérative. Cette coopérative compte 20 logements destinés aux personnes autonomes ou semi-autonomes. Il faut débourser 750 $ par mois pour un 3,5. S'ajoutent à cela les frais pour la formule 3 repas par jour. Un montant bien en deçà du prix moyen des places standards, sans soins assidus, en RPA au Québec, qui frôlait les 1 900 $ en 2022, selon les plus récentes données de la plateforme web Bonjour Résidence. En plus d'être sans but lucratif, les coopératives reçoivent des subventions pour offrir des logements à moindre coût, ajoute Christine Lavoie, conseillère en développement des communautés à l'Observatoire estrien du développement des communautés, OEDC. Les membres de la coopérative de solidarité sont composés à la fois de locataires, mais aussi de personnes issues de la communauté qui agissent comme membres de soutien. Chaque individu est ainsi invité à mettre ses talents au service des autres, que ce soit pour décorer, déneiger ou faire de la plomberie, donne en exemple Gaston Michaud, ce qui diminue la facture. Des valeurs d'entraide qui améliorent aussi la qualité de vie des résidents. En fait, c'est un outil formidable de maintien à domicile collectif. Cela permet de briser l'isolement et la maltraitance, tout en diminuant les inquiétudes des personnes aînées, fait valoir le fondateur. Il souligne que, selon des études, maintenir une vie sociale active a un impact très positif sur la longévité. Gaston Michaud a d'ailleurs été invité à présenter son modèle à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à plusieurs reprises. Ce dernier espère donc que la formule, déjà implantée ailleurs au Québec, fera boule de neige. Toutefois, la recherche de partenaires, d'un terrain ou de financement peut freiner les élans de communautés qui souhaitent faire émerger des coopératives du genre. Certaines organisations, comme l'OEDC, leur offrent de l'accompagnement, mais ce n'est pas suffisant. Le gouvernement devrait soutenir la création de ce type de solution collective, plaide Gaston Michaud, plutôt que de se concentrer sur le soutien à domicile. En mode cohabitation. D'autres formes d'habitat collectif ont aussi pris forme au Québec, observe Christine Lavoie. Elle cite en exemple Cohabitat Québec, un complexe résidentiel regroupant 42 logements en copropriété dans le quartier Saint-Sacrement, à Québec. Premier projet du genre dans la province, l'ensemble inauguré en 2013 compte autant de petites unités, parfaites pour des personnes à la retraite, que d'habitations destinées aux familles. Une composition qui favorise naturellement la diversité. Importé du Danemark, Ce concept lancé dans les années 1960 a rapidement fait sa marque en Europe, puis aux États-Unis. Même l'architecture et le design de ces projets sont conçus pour favoriser l'interaction, explique Christine Lavoie. Par exemple, les résidents de Cohabitat Québec bénéficient d'une cour partagée et d'une maison commune avec cuisine, salle à manger, salle de réunion et autres espaces collectifs contribuant à la vie en communauté. Celles et ceux qui y résident se partagent aussi différentes tâches et s'entraident pour pelleter ou changer une poignée de porte, donne en exemple la conseillère. Tu apprends à connaître tes voisins, à les apprécier, à prendre soin d'eux, souligne-t-elle. D'ailleurs, une étude menée au Danemark montre que les personnes aînées qui vivent en cohabitation recourent à des services d'aide à domicile en moyenne de 6 à 8 ans plus tard que celles qui vivent en domicile privé régulier. Une formule qui gagne en popularité, selon elle, alors que plusieurs nouveaux projets sont en train de voir le jour, notamment à Neuville, près de Québec. Toutefois, c'est encore difficile de concrétiser ce modèle, puisque tout est très normé et que les bailleurs de fonds sont souvent frileux, rapportait Le Devoir. Et la colocation? Autre possibilité intéressante, les habitats partagés. Plusieurs personnes aînées sont propriétaires d'une maison devenue trop grande pour leurs besoins et ont une chambre libre. Elles vont donc louer cet espace primodique en échange de certains services, comme faire ses courses ou cuisiner quelques repas, explique Christine Lavoie. Cela permet de briser l'isolement, en plus d'aider certaines personnes à conserver leur maison plus longtemps, explique Pierre Gendron, directeur général de l'organisme Les Habitations Partagées de l'Outaouais. Depuis 1987, cet organisme gère un service de jumelage de ce type. Selon l'espace partagé et les services requis, les prix varient en général entre 400 $ et 1 $ par mois, précise Aude Flora Malouangou, agente de développement et service à la clientèle de cet organisme. Dans certains cas, il est même possible de recevoir une aide financière pour la prochaine danse, si bien que la location est gratuite, ajoute-t-elle. Très répandu en France, ce genre de service de jumelage existe aussi ailleurs au Québec, notamment au Saguenay et à Montréal. Autant de pistes pour varier les types d'habitations disponibles pour les personnes plus âgées et, du coup, leur offrir des options plus abordables. Il y a plein de gens qui ont des idées vraiment intéressantes, mais ce n'est pas toujours facile d'obtenir du financement public pour développer des projets d'habitation communautaire et sociale, résume Christine Lavoie. Certains programmes adoptés récemment semblent plus flexibles, mais c'est encore difficile de laisser émerger des projets innovants. Trouver un logement alternatif. Quelques ressources pour connaître les projets sur son territoire. Le réseau québécois des OSBL d'habitation et les fédérations régionales. Page web rqoh.com. Téléphone 1-866-846-0163. La Confédération québécoise des coopératives d'habitation et les fédérations régionales. Page web coopérativehabitation.coop. Téléphone 1-800-667-9386. Le site munitoi.org, munitoit.org, qui présente différents modèles, comme les habitations multigénérationnelles. C'était « Des résidences qui cassent le moule », un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 9 février 2024 dans le magazine Virage.
Séquelles ou blessures catastrophiques après un accident de la route, recevez-vous le montant d'indemnisation de la SAC auquel vous avez droit? Un texte du Protecteur du citoyen, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Augmentation des montants. Depuis juillet 2022, la loi sur l'assurance automobile du Québec prévoit une hausse de l'indemnité de remplacement de revenus pour les personnes accidentées qui font partie des blessés de nature catastrophique. On parle ici de personnes qui, après un accident de la route, gardent des séquelles ou des blessures particulièrement graves, comme, notamment, une personne qui devient tétraplégique, paralysée des quatre membres. Si c'est votre cas, ou celui d'un proche, retenez que l'indemnité de remplacement de revenus pour cette catégorie d'accidentés peut être maintenant établie selon un nouveau barème. Il s'agit du revenu brut minimal basé sur la rémunération hebdomadaire des travailleurs du Québec. Cette nouvelle base de calcul peut avoir pour effet d'augmenter les montants versés. Le protecteur du citoyen peut vous aider. Le protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes qui font affaire avec les services publics du gouvernement du Québec, tels que la SAAC. En 2023, il a traité la plainte d'une personne devenue paraplégique à la suite d'un accident de la route qui estimait qu'elle ne touchait pas l'indemnité due. L'enquête du protecteur du citoyen lui a donné raison et le montant est passé d'environ 37 000 $ à près de 54 000 $. Le protecteur du citoyen a aussi demandé à la SAAC de faire des vérifications dans d'autres dossiers d'accidentés très graves. Les recherches ont permis d'identifier des cas où les montants ont dû être augmentés. Si vous êtes aux prises avec des blessures ou des séquelles dites « catastrophiques » au sens de la loi, assurez-vous que l'indemnité que vous recevez a bien été fixée selon le nouveau barème. Au besoin, communiquez avec la SAAC pour vous renseigner. Si vous n'obtenez pas de la SAAC les services auxquels vous avez droit, que ce soit concernant votre indemnité de revenus ou pour toute autre raison, communiquez avec le protecteur du citoyen. Ces services sont faciles d'accès et gratuits. C'était « Séquelles ou blessures catastrophiques après un accident de la route ». Recevez-vous le montant d'indemnisation de la SAAC auquel vous avez droit? Un texte du protecteur du citoyen paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad.